Si donc il n'existait pas de vraie piété, il n'y en aurait pas non plus de fausse. Et de même que c'est la valeur du billet de banque qui engage le faussaire à le reproduire, de même c'est l'excellence du caractère chrétien qui donne l'idée à certaines gens de l'imiter. N'ayant pas la réalité, ils veulent du moins avoir l'apparence, n'étant pas de l'or pur, ils se plaquent de façon à en avoir l'air. Je le répète, et le plus simple bon sens suffit à nous le faire comprendre, puisqu'il y a de faux chrétiens, il doit nécessairement y en avoir de véritables. Bien dit. Pense peut-être un autre de mes auditeurs, oui, grâce à Dieu, il existe de sincères, de véritables chrétiens, et j'ai le bonheur d'être du nombre. Jamais, je n'ai eu ni doute ni crainte à cet égard, je sais que je suis un élu de Dieu, et quoique, il est vrai, je ne me conduise pas toujours comme je pourrais le désirer, j'ose dire que si je ne vais pas au ciel, peu de personnes iront. Ainsi, prédicateur de l'Évangile, à d'autres tes avertissements. Depuis plus de 20 ans je suis membre de l'Église, depuis plus de 10 j'ai l'honneur de siéger au Conseil des Anciens, je jouis de la considération de mes frères, rien ne saurait ébranler ma confiance. Quant à mon voisin que voilà, c'est autre chose. Je crois qu'il fera bien de s'assurer de la réalité de sa conversion, mais, encore une fois, pour ce qui me concerne, tout est bien, je suis parfaitement tranquille. Ah ! Mon cher auditeur, me pardonnerez-vous si je vous dis que votre excès d'assurance m'inspire les plus graves inquiétudes ? Si vous n'avez jamais eu de crainte, sur la valeur de votre piété, je commence à en avoir. Si vous ne doutez pas quelquefois de vous-même, je ne puis que trembler, car, vous le dirai-je, j'ai observé que tous les enfants de Dieu sont d'une extrême méfiance à leur propre égard et qu'ils craignent plus que qui que ce soit de se faire illusion. Jamais encore je n'ai rencontré un vrai croyant qui fût content de son état spirituel. Puis donc que vous vous déclarez si particulièrement satisfait du vôtre, excusez-moi, mais je ne puis en vérité apposer ma signature au certificat de piété que vous vous délivrez à vous-même. Il se peut que vous soyez très bon, toutefois, souffrez que je vous conseille de vous examiner pour voir si vous êtes dans la foi, de peur qu'étant enflé dans votre sens charnel, vous ne tombiez dans les pièges du malin. Jamais trop sûr est une devise qui convient parfaitement aux chrétiens. Étudiez-vous, tant qu'il vous plaira, à affermir votre vocation et votre élection, mais, de grâce, n'ayez jamais une trop haute opinion de vous-même, gardez-vous de la présomption. Combien d'hommes excellents à leur propre yeux, qui sont des démons aux yeux de Dieu. Combien d'âmes très pieuses dans l'opinion de l'Église, qui ne sont que souillures devant le Saint des Saints. Que chacun de nous s'éprouve donc soi-même, et disons avec le psalmiste Dieu fort. Sonde-moi et considère mon cœur, regarde s'il y a en moi aucun mauvais dessein, et conduis-moi par la voie du monde, psaume 134, 34. Mes bien-aimés, si les avertissements que vous venez d'entendre avaient pour résultat de faire naître en vous de telles pensées, de vous inspirer une semblable prière, je bénirai Dieu du fond de mon âme de m'avoir permis de vous les adresser. Enfin, il y a sûrement ici quelques-uns de ces esprits légers et insouciants auxquels il importe peu, disent-ils, d'appartenir ou non à Christ. Ils comptent vivre comme par le passé dans l'oubli de Dieu, méprisant ses menaces et se moquant de son nom. Insensé et aveugle. Un jour viendra, sachez-le, où votre rire sera changé en pleurs, où vous sentirez le besoin de cette religion que vous dédaignez aujourd'hui. À bord du vaisseau de la vie, naviguant sur une mer paisible, vous vous moquez à présent de la chaloupe de sauvetage, mais attendez que la tempête gronde et vous voudrez vous y précipiter à tout prix. Maintenant, vous ne faites aucun cas du sauveur, parce qu'il vous semble que vous n'avez nul besoin de lui, mais lorsque la mort se saisira de vous, lorsque viendra l'orage de la colère divine, retenez bien ceci, ô pécheurs. Vous qui maintenant ne voulez pas prier Christ, vous hurlerez après lui. Vous qui maintenant refusez de l'appeler, vous le poursuivrez alors par vos cris de désespoir. Votre cœur qui maintenant n'éprouve aucun désir de le posséder, se pâmera après lui, dans une inexprimable angoisse. Retournez, retournez. Convertissez-vous, et pourquoi mourriez-vous, aux maisons d'Israël ? Oh, veuille le Seigneur vous amener à lui et faire de vous ses sincères, ses véritables enfants, en sorte que votre fin ne soit pas la perdition, mais que vous soyez sauvés dès à présent et sauvés pour l'éternité. La première prière de saint Paul, car voilà, il prie acte 9,11. Le Seigneur a bien des manières d'éteindre la persécution. Jamais il ne souffrira que son Église soit vaincue par ses ennemis ou anéantie par ses adversaires, et les moyens ne lui manquent pas pour détourner les coups des méchants, ou même, au besoin, pour renverser leurs desseins de fond en comble. Parmi ces moyens, il en est deux qu'il emploie d'ordinaire, il confond le persécuteur, ou bien, dans sa miséricorde, il le convertit. Tantôt le Dieu fort sème le trouble et la confusion dans le camp de ses ennemis, il frappe de vertige les enchanteurs et d'impuissance les magiciens, à celui qui ose lui faire la guerre, il permet de courir à sa perte, puis il jette un regard de triomphante dérision sur le misérable insensé qui avait espéré de dire à Psaume 35, 21a, l'Église de Dieu. Mais parfois aussi il convertit le persécuteur, d'un antagoniste déclaré, il se fait un ami, d'un fougueux adversaire de l'Évangile, il fait un ardent soldat de la croix. Du sein des ténèbres, il tire la lumière, de celui qui dévorait, il fait sortir le miel, des cœurs les plus durs, il suscite des enfants à Abraham. Tel fut le cas de Saul de Tarse. Un fanatique plus exalté ne saurait se concevoir. Le sang du fidèle Étienne avait rejailli sur lui, car si complaisante, si officieuse était sa cruauté, que tandis qu'on lapidait le premier martyr, il gardait les vêtements de ses bourreaux. Vivant à Jérusalem, élève dans la savante école de Gamaliel, Saul se trouvait journellement en contact avec les disciples de l'homme de Nazareth. En rencontrait-il dans les rues, il les insultait et les couvrait d'injures, bien plus, il obtint contre eux des mandats d'arrêt et les fit mettre à mort. Et maintenant, pareil à une bête féroce qui a goûté le sang, le jeune pharisien ne respire plus que carnage, sa fureur est à son comble, et, pour couronner dignement son œuvre homicide, il part pour Damas, afin de se saisir de tous les chrétiens, soit hommes, soit femmes, qu'il trouvera dans cette ville, il les amène ralliés à Jérusalem, et assouvira la soif sanguinaire qui le dévore en leur faisant subir la peine due, suivant lui, à leur abominable hérésie. Mais, aux merveilles de la puissance de Dieu, Jésus arrête ce forcené dans sa course insensée. Juste au moment où, la lance en arrêt, il va fondre sur Christ, Christ le rencontre, le terrasse, le renverse, puis lui adresse cette question: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ensuite, ce charitable sauveur daigne lui ôter son cœur rebelle, il lui donne un nouveau cœur et un esprit droit, change complètement ses vues et ses projets, le conduit à Damas, le tient prosterné à ses pieds, pendant 3 nuits et 3 jours, parle à son âme, lui fait entendre des sons mystiques, des paroles ineffables, embrasse son cœur tout entier de la sainte flamme de l'amour, et lorsque enfin le futur apôtre des gentils, sortant de sa longue extase, commence à prier, Jésus descend aussitôt du ciel, apparaît en vision à Anania, et lui dit: lève-toi, et t'en vas dans la rue appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse, car voilà, il prie. Cette dernière parole, mes frères, sont d'abord l'annonce d'un fait de haute importance, voilà, il prie. Et, en second lieu, un argument présenté par le Seigneur à Anania, car voilà, il prie. Je me propose de considérer tour à tour mon texte sous ces deux aspects, ensuite j'essaierai d'en faire l'application à vos cœurs. Il est vrai qu'à bien parler, Dieu seul peut accomplir cette dernière tâche. Toutefois, j'ose espérer qu'il voudra bien se servir de la prédication de ce jour pour vous disposer à recevoir les instructions que sa parole va vous donner. Je le répète, ces mots du Seigneur à Anania, va et cherche un nommé Saul de Tarse, car voilà, il prie, était l'annonce d'un fait de haute importance. Et remarquez, en premier lieu, que ce fait était connu de Dieu lui-même. Saul fut conduit par l'influence de l'Esprit-Saint à désirer la grâce divine, et du moment qu'il commença à prier, Dieu commença à écouter sa voix. N'avez-vous point été frappés, mes chers amis, en lisant les paroles du Seigneur à Anania, des détails si minutieux dans lesquels il entre relativement à Saul? Évidemment, celui-ci était l'objet de son intérêt tout particulier. Jésus connaît la rue où il loge, va dans la rue appelée la droite. Il connaît la maison où il habite, cherche dans la maison de Judas. Il sait son nom, il sait même de quel pays il est originaire, cherche un nommé Saul de Tarse. Enfin, il sait qu'il est présentement en prière, voilà, il prie. Oh ! Quelle est réjouissante la pensée que Dieu s'occupe ainsi avec la plus tendre sollicitude de toute âme qui s'approche de lui. Voici un pauvre pécheur, contrit et humilié, il se retire dans la solitude de sa chambre, il fléchit le genou devant Dieu, l'angoisse de son cœur brisé ne se traduit peut-être que par des larmes et des soupirs. Mais, au prodige, ces soupirs de contrition ont fait vibrer toutes les harpes du paradis. Ces larmes de repentir ont été recueillies par le Seigneur et seront conservées à toujours dans l'urne lacrymatoire du ciel. Le plus humble suppliant, celui-là même qui n'ose formuler une requête, est compris par le Très-Haut. Il peut n'offrir à Dieu qu'une larme furtive, qu'une larme timide, mais qu'importe? Une larme n'est-elle pas souvent la plus éloquente des prières? Les larmes d'une sincère pénitence sont les diamants du ciel. Les gémissements de cœur humilié viennent se joindre, comme autant de notes mélodieuses, à la sublime harmonie qui retentit nuit et jour devant le trône de Jéhovah. Oh ! Mes bien-aimés, ne comprenez-vous pas tout ce qu'il y a de doux et d'encourageant dans la pensée que Dieu prend garde aux prières des fils des hommes ? Peut-être quelques-uns de vous se sont-ils dit plus d'une fois sûrement « Je suis un être trop insignifiant, trop coupable et trop vil » pour que Dieu daigne faire attention à moi, alors même que j'essaierai de chercher sa face. Mes amis, chassez loin de vous des idées aussi impies, aussi païennes, dirais-je. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui vit plongé dans un songe perpétuel ou qui s'enveloppe d'épaisses ténèbres en sorte qu'il ne puisse voir. Il n'est pas comme Baal, qui n'entend point. Il se peut, il est vrai, que les batailles, le tumulte de ce monde le laisse indifférent, il ne se soucie ni de la pompe, ni du fastueux étalage des rois, il ne prête point l'oreille aux bruyantes fanfares de la musique guerrière et détourne ses yeux des scènes de triomphe et de gloire humaine. Mais partout un cœur souffre un gémis, partout un œil s'élève au ciel, voilé de pleurs, partout des lèvres tremblantes murmurent une prière, partout où retentit un amer soupir ou un sanglot de compunction, la Jéhovah prend plaisir à regarder. Il s'approche, il prête l'oreille, il inscrit les prières de l'âme pénitente dans un registre, il les dépose, comme des fleurs sèches, dans son livre de mémoire, et quand, au dernier jour, le livre sera ouvert, il s'en exhalera un suave parfum. Aie donc bon courage, pauvre pécheur qui te repens. Fusses-tu même le plus indigne, le plus vil des criminels, le Seigneur entend ta requête, et il dit de toi ce qu'autrefois il disait de Saul, de Tarse voilà, il prie. Où as-tu prié ce matin, mon frère ? Est-ce dans une grange ? Ou dans ton cabinet ? Ou à côté de ton lit ? Ou bien peut-être dans ce lieu de culte ? Je ne sais, mais Dieu le sait. Et à présent encore ton œil humide, ne s'élève-t-il pas vers le ciel ? Dis, pauvre cœur troublé, n'entends-je pas sortir de tes lèvres, en cet instant même, ce cri d'angoisse au Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur ? S'il en est ainsi, mon frère, sois-en certain, Dieu a déjà ouï ta voix. Qui n'admire la merveilleuse célérité avec laquelle le fluide électrique transmet les messages que l'homme lui confie ? Et pourtant la parole de mon Dieu me fait connaître un moyen de communication qui dépasse infiniment en vitesse l'électricité même, c'est la prière avant qu'il crie, je les exaucerai, a dit elle, éternel, et lorsqu'ils parleront encore, je les aurai déjà entendus. Esaïe 55, 24, Paul éprouve la vérité de cette glorieuse promesse, et toi de même, n'en doute pas, ô pécheur, tu es entendu par celui qui est assis sur le trône. Mais le fait annoncé dans mon texte n'était pas seulement connu de Dieu, il était encore, sans nul doute, le sujet d'une grande joie dans le ciel. Voilà, dit Jésus, il prie. Ne sent-on pas que cette parole du Sauveur était un cri d'allégresse ? Une seule fois nous lisons dans l'Évangile que Jésus tressaillit de joie dans son esprit, ce fut lorsque, élevant les yeux, il dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » Oui, mon Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. Et à présent encore, rien ne réjouit le pasteur de nos âmes, comme de voir ses brebis entrer dans son paisible bercail, il triomphe en esprit, lorsqu'une pauvre âme égarée en franchit le seuil. Oh ! Sûrement un sourire, tel qu'il n'en existe qu'en paradis, dut illuminer le visage de Jésus, quand il put dire à Anania, voilà. J'ai gagné le cœur de mon ennemi, j'ai sauvé mon persécuteur, dans ce moment même, il fléchit le genou devant mon marchepied, voilà, il prie. Jésus avait plus de joie pour cette brebis perdue et retrouvée que pour 99 autres qui ne s'étaient point égarés. Mais il n'était pas le seul à se réjouir, les anges partageaient son allégresse. Si la voix de Jésus dirigeait le chant, tous les esprits célestes s'y joignaient d'un même cœur. Lorsqu'un élu de Dieu naît sur la terre, incontinent les anges entourent son berceau. Il grandit, il se développe, et le péché se développe avec lui. Il s'engage dans les sentiers de l'iniquité, son ange l'y suit, il s'attache à ses pas, il contemple avec tristesse ses égarements, une larme brille dans son regard, quand celui qu'il aime offense Dieu. Mais finalement cette âme est conduite à écouter l'Évangile. L'ange l'observe avec bonheur, il veille, il attend. Bientôt la parole de Dieu pénètre dans la conscience du pécheur, le voilà qui pleure et qui enfin murmure « Seigneur, prends pitié de moi ». Et soudain, l'ange déploie ses ailes, il remonte en hâte vers les cieux. « Ange frère, écoutez tous. s'écrie-t-il avec transport. Je vous apporte une bonne nouvelle, voilà, il prie, il prie. Alors l'armée céleste éclate en chants de louanges, il y a fête dans le séjour de la gloire, les voûtes du ciel retentissent de cris de triomphe, car en vérité, je vous dis qu'il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'amende, Luc 15, 10. Et outre les anges, mes chers amis, il se peut qu'il y ait dans le ciel d'autres esprits qui se réjouissent de la conversion des pécheurs. Je veux parler des esprits des justes arrivés à la perfection, de ceux qui nous ont aimés ici-bas et qui nous ont devancés dans l'éternel repos. Pour ma part, je ne compte que peu de parents dans le ciel, mais j'y ai une vénérable aïeule que je chéris tendrement et qui m'entoura de soins et d'affection pendant une partie de mon enfance. Quand elle était sur la terre, elle priait pour moi et il me semble que des demeures éternelles où elle fut soudainement introduite, elle a dû suivre du regard son petit-fils bien-aimé à mesure qu'il avançait dans la vie. Lorsqu'elle l'a vu cheminant dans les voies du péché et de la folie, assurément elle n'a pu éprouver de la douleur, car il n'y a point de larmes dans les yeux des saints glorifiés, ni même du regret, car un tel sentiment est inconnu devant le trône de Dieu. Toutefois, quand vint l'heure bénie, où, par un effet de la grâce souveraine, je fus contraint à prier, où, seul en face de Dieu, je me prosternais et luttais avec lui, alors, oh ! Alors, ne passa-t-il pas sur son visage béatifié comme un éclair d'une joie nouvelle et ne dut-elle pas, elle aussi, s'écrier avec ravissement « Voilà, il prie, il prie ». Il lui sembla en cet instant, j'imagine, qu'elle jouissait d'une double portion de félicité, elle crut posséder deux ciels, un en moi et un en elle-même. Et toi, mon jeune auditeur, n'as-tu pas aussi un être aimé dans la gloire? Ta mère peut-être parcourt à cette heure les rues pavées d'or du paradis, peut-être te regarde-t-elle à l'instant où je te parle. Enfant, elle t'a nourri de son lait, elle t'a porté sur son sein, elle t'a consacré à Jésus-Christ. Du ciel où elle est maintenant, elle te contemple avec ce degré d'intense anxiété qui est compatible avec le bonheur. Parle, jeune homme, que se passe-t-il dans ton âme? Entends-tu la voix de Christ qui te dit au moyen de son esprit « Venez à moi » Verses-tu des larmes d'une vraie repentance? Oh! Si l'on est ainsi, je me représente ta mère répétant, à son tour, le cœur débordant de béatitude, il prie, il prie. Je la vois qui s'incline une fois de plus devant le trône de Dieu, en lui disant, avec l'accent d'une indicible reconnaissance, « Je te rends grâce, ô toi, être tout bon, de ce que l'enfant que tu m'avais donné sur la terre est devenu ton enfant pour l'éternité. Mais s'il est dans le ciel des saints glorifiés, qui plus que tous les autres, salue avec joie la conversion des pécheurs, sans contredit ce doit être ceux qui furent ici-bas de fidèles, de véritables ministres du Seigneur ? Oh ! Mes chers amis, vous ne pouvez savoir combien un véritable ministre de Dieu aime vos âmes. Peut-être pensez-vous que c'est chose facile de monter en chair et de prononcer un sermon. Si c'était là tout, Dieu sait qu'en effet notre tâche nous semblerait bien aisée, mais lorsque nous vous voyons devant nous, et que nous songeons que de nos paroles, dépendant quelque mesure votre salut ou votre perdition éternelle, lorsque nous réfléchissons que si nous sommes, et sentinelles infidèles, Dieu redemandera votre sang de nos mains, lorsque nous pensons aux centaines, aux milliers d'âmes qui nous ont déjà entendus et auxquelles peut-être nous avons souvent parlé, comme nous n'aurions pas dû le faire, quand, dis-je, nous nous souvenons de ces choses, oh, bon Dieu ! Notre âme est saisie de frayeur, nous frémissons et nous tremblons. Luther avait coutume de dire qu'il pouvait affronter sans crainte ses ennemis, mais que jamais il ne montait en chair, sans que ses genoux se heurtassent l'un contre l'autre. Ah ! Mes frères, sachez-le, la prédication de l'Évangile n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est point une chose qui se puisse accomplir sans préparation ou sans anxiété, c'est au contraire une tâche solennelle, une tâche terrible, lorsqu'on l'envisage dans ses rapports avec l'éternité. Si vous saviez comme le serviteur de Christ prie pour vous, allez écouter le dimanche soir, sous la fenêtre de son cabinet, vous l'entendrez gémir amèrement parce que sa parole n'a pas été plus fidèle, vous l'entendrez criant à Dieu dans l'angoisse de son cœur qui a cru à notre prédication et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Mais bien-aimés, quand nous voyons une âme parvenir à la connaissance du Seigneur, nous éprouvons un sentiment que je ne saurais mieux comparer qu'à celui d'une personne qui aurait sauvé un de ses semblables sur le point de se noyer. Voyez ce malheureux qui se débat contre les flots, il enfonce, il disparaît, il va périr. Mais à ce moment, je m'élance à son secours, je le saisis d'une main ferme, je nage avec lui vers la terre, je le dépose sur le rivage. Le médecin arrive, il l'examine, le touche, mais il secoue la tête et dit « Je crains qu'il n'ait cessé de vivre. » Oh ! Alors avec quelle anxiété je me penche sur cet homme que j'ai essayé d'arracher à la mort. Comme mon cœur bat avec force tandis que je place mon oreille sur sa poitrine et devant sa bouche. À la fin, je m'écrie « Il respire ! Il respire ! Il est sauvé !» Quelle douceur dans cette pensée ! Combien je me sens heureux ! Ainsi en est-il de tout fidèle ministre de Christ. Dès qu'il s'aperçoit qu'une âme de son troupeau commence à prier, il se dit avec une sainte émotion « Elle respire, elle n'est pas morte, elle est vivante ». Et il peut tenir ce langage en toute assurance, car une âme qui prie réellement montre par là qu'elle n'est plus morte dans ses fautes et dans ses péchés, mais qu'elle a été vivifiée par la puissance de l'Esprit. Or, si le salut des pécheurs cause des ici-bas aux prédicateurs de l'Évangile une joie à nulle autre pareille, que sera-ce, je le demande, si des tabernacles célestes, il lui est donné de voir une âme qu'il a disputée à la mort éternelle prosternée devant Dieu ? Oh ! Sûrement son cœur bondira au-dedans de lui, il frappera des mains en signe de réjouissance quand il pourra s'écrier « Voilà, le Seigneur me donne un fils !» Voilà, il prie. Observez encore, mes frères, que l'événement dont parle mon texte, sujet de joie auprès de Dieu, était un sujet d'étonnement sur la terre. Je me représente Anania élevant ses mains jointes vers le ciel, au comble de la stupéfaction. « Oh ! Mon Seigneur, dut-il dire, est-ce bien possible ? Saul de Tarse serait-il en prière ? Il n'est pas un homme dans le monde que je me fusse moins tant dû avoir invoqué ton nom. Je ne sais ce qui en est, de mes collègues dans le ministère, mais quant à moi, je l'avoue, j'éprouve fort souvent des impressions analogues à celles que ressentit Anania dans cette circonstance. Ainsi, par exemple, il m'arrive quelquefois de regarder avec satisfaction telle ou telle de mes auditeurs et de me dire « voilà des personnes bien disposées, je crois que je les gagnerai, certainement une bonne œuvre se poursuit en elles et bientôt je les entendrai raconter ce que le Seigneur a fait pour leurs âmes. » Toutefois, au bout de quelque temps, je ne vois plus ces personnes, elles disparaissent de nos saintes assemblées, elles retournent vers le monde. Que fait alors mon bon maître ? Au lieu de ces âmes sur lesquelles je comptais, il m'en envoie dont je n'espérais rien, il convertit un homme perdu demeure, un pécheur scandaleux peut-être, à la louange de la gloire de sa grâce. Alors c'est à mon tour de lever mes mains en haut, disant comme Anania, Seigneur, est-il bien possible ? Je me rappelle un fait de cette nature qui s'est accompli il y a peu de temps. Un marin d'une soixantaine d'années entra un dimanche dans une chapelle. C'était un homme qui avait vieilli dans le vice, il était adonné à la boisson et semblait trouver une jouissance particulière à prononcer des imprécations et des blasphèmes. Le prédicateur avait choisi pour texte de son discours cette portion de l'Évangile qui nous montre Jésus pleurant sur Jérusalem. Le marin écoute, et bientôt il se demande quoi, se pourrait-il que Jésus-Christ eût pleuré sur un misérable tel que moi ? Il se sentait si indigne qu'il n'osait croire à tant d'amour. Cependant, à l'issue du service, il va trouver le ministre, « Monsieur, lui dit-il, voilà 60 ans que je navigue sous le pavillon du diable, il est temps que je change de patron. Je voudrais couler bas le vieux navire et m'embarquer à bord d'un nouveau, où j'arborerai pour toujours les couleurs du prince Emmanuel. » Et à partir de ce moment, cet homme devint un homme de prière, marchant en toute intégrité devant Dieu. C'est ainsi, mes frères, que Dieu choisit souvent les derniers des pécheurs pour en faire des monuments de sa grâce. Dieu semble se plaire à déjouer nos prévisions. Parfois, il passe à côté d'un diamant sans y prendre garde et il ramasse le caillou du chemin. De pierres de nulle valeur, il fait naître des enfants à Abraham. Le Seigneur est plus habile que le plus habile chimiste, car non seulement il sait raffiner l'or, mais il transforme en or fin un vil métal. Il prend les êtres les plus souillés, les plus méprisables, et les façonne en héritiers du ciel. Ils sont pécheurs et il les nettoie, ils sont impurs et il les sanctifie. Oui, étonnante, merveilleuse, était la conversion de Saul de Tarse. Mais, à tout prendre, mes bien-aimés, votre conversion ou la mienne sont-elles donc moins étonnantes ? Si on vous eût dit, il y a quelques années, que vous vous joindriez à une église et que vous seriez compté au nombre des enfants de Dieu, qu'auriez-vous répondu, je vous le demande ? Impossible. Absurde. Vous seriez-vous écrié, nous, devenir méthodistes ? Non, jamais. Qu'avons-nous à faire de la religion ? Nous voulons continuer à penser et agir, comme bon nous semble. N'est-ce pas là, mes amis, le langage que vous et moi aurions tenu ? Comment donc se fait-il que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes ? Lorsque nous réfléchissons à la transformation complète qui s'est opérée en nous, ne nous paraît-il pas que nous rêvons? Dieu a laissé bien des membres de nos familles qui valaient mieux que nous, et pourquoi nous a-t-il choisis? Oh! N'est-ce pas une chose étrange, une chose inouïe? Et ne pourrions-nous pas, comme Anania nous écriait, avec un geste d'étonnement, « Voilà, c'est un miracle sur la terre ? » C'est un prodige dans le ciel. Enfin, remarquez, mes chers auditeurs, que le fait exprimé par ces simples mots « Voilà, il prie » était sans précédent dans la vie de saint Paul. Il est vrai que le jeune pharisien avait eu coutume de monter régulièrement au temple deux fois le jour, à l'heure de la prière. L'y eussiez-vous accompagné, vous l'auriez entendu très certainement prononcer d'éloquentes oraisons, dans le genre de celle-ci au Dieu, « Je te rends grâce de ce que je ne suis, pas comme le reste des hommes je ne suis, ni un ravisseur ni un péager, je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède » Luc 18:11-12. Oh ! Oui, sans nul doute, vous l'auriez entendu haranguer le Seigneur en termes pompeux et magnifiques. Néanmoins, il est dit expressément dans mon texte, « Voilà, il prie. » Eh, quoi ? Saul n'avait-il donc jamais prié auparavant ? Non, mes frères, jamais. Le culte qu'il avait offert à Dieu pendant toute sa vie ne comptait pour rien par le fait, ce n'était pas un culte. J'ai ouï raconter qu'un vieillard, auquel on avait enseigné dans son enfance à dire à Dieu « Seigneur, je te prie de bénir mon père et ma mère », continua à répéter machinalement ces mêmes paroles pendant 70 années de sa vie, c'est-à-dire bien longtemps après que ses parents furent morts. Au bout de ce temps, il plut à Dieu, dans son infinie miséricorde, de toucher le cœur de ce vieillard. Il reconnut son inconcevable aveuglement, il comprit que malgré son attachement routinier à certaines formes, il ne s'était jamais sérieusement approché de Dieu. Il avait récité prière sur prière, mais jamais il n'avait prié. Il en était d'eux, même de Saul. Le culte qu'il avait rendu à Dieu n'avait été qu'une dérision, ces longues prières, que vaines redites. Mais enfin, de son ser humilié s'échappe une sincère invocation, et c'est alors que Jésus lui rend ce témoignage « Voilà, il prie ». Voyez-vous cet homme qui essaie d'obtenir une audience de son Créateur ? Il dépose une pétition, en vers latin, au pied du trône du Tout-Puissant, mais Dieu reste impassible, il s'enveloppe dans une calme indifférence. Alors le suppliant s'y prend, d'une autre manière, il se procure un livre, et, s'agenouillant de nouveau, il lit la plus belle, la plus vénérable, la meilleure des prières, qui ait jamais été composée, mais le Très-Haut ne prend point garde à ce froid et creux formalisme. À la fin, le pauvre pécheur jette le livre de côté, oublie son latin, et s'écrie avec larmes au Seigneur, « Écoute-moi pour l'amour de Christ ». Aussitôt Dieu répond, « Je t'écoute, pauvre âme angoissée, j'ai entendu ta voix, voilà la grâce que tu cherchais. » Mieux vaut une seule prière sentie que 10 000 prières formalistes, mieux vaut un simple élan de l'âme que les plus sublimes formules des livres. Toute prière qui ne part que des lèvres ou de l'intelligence est en abomination devant Dieu, celles-là seules qui jaillissent du plus profond du cœur lui sont agréables. Ah ! Mes chers auditeurs, vous le dirai-je, au risque de vous scandaliser ? Je crains qu'il n'y ait parmi vous des centaines d'âmes qui n'ont pas réellement prié une seule fois dans leur vie. Et que comptez-vous faire, je vous le demande, quand il vous faudra mourir? Pensez-vous entrer au ciel sans prière? Funeste illusion. On l'a dit, la prière est le mot d'ordre du chrétien mourant. Si donc, ce mot d'ordre, vous ne le possédez pas, vous serez banni pour toujours de la présence de Dieu. De même, comme je l'ai dit en commençant, si mon texte est l'annonce d'une grande nouvelle, il est aussi un argument présenté par le Seigneur à Anania. Et d'abord, c'était un argument bien propre à rassurer Anania. Naturellement, la mission qui lui était confiée inspirait à celui-ci des inquiétudes pour sa sûreté personnelle. Il lui semblait qu'en allant vers Saul, il se jetait, pour ainsi dire, dans la caverne d'un lion. Certainement, pensait-il, puisque je suis un disciple de Christ, Saul de Tarse se saisira de moi et m'amènera à Jérusalem. Alors voici, le Seigneur lui dit, il prie elle, et à l'instant toute appréhension s'évanouit de son cœur. « Cela suffit, Seigneur, dut-il répondre avec joie, si Saul prie, je n'ai rien à craindre. » Et vous de même, mes chers auditeurs, soyez assurés que vous n'avez rien à craindre d'un homme de prière. Je ne sais comment expliquer ce fait, mais il est positif que les incrédules mêmes entourent le fidèle chrétien d'une certaine vénération. Un maître impie aime pourtant à avoir à son service un domestique pieux, tout en méprisant la religion pour lui-même, il l'estime dans son serviteur et, s'il prie, il lui accordera une confiance particulière. Il est vrai que de nos jours, hélas, Il est des gens qui se font passer pour des hommes de prière et dont la conduite prouve que leurs prétentions ne sont que feintes et mensonges. Il va sans dire que je ne parle point de cela, mais quant aux âmes qui prient dans le vrai sens du mot, ne craignez pas, je le répète, de placer en elles une confiance sans bornes. Qui s'entretient avec Dieu en secret, se conduit droitement en public. Qui s'approche souvent du trône de la grâce offre toute garantie. Il me souvient d'avoir entendu raconter un fait qui confirme ce que j'avance d'une manière bien remarquable. Deux touristes parcouraient ensemble les montagnes de la Suisse. À la nuit tombante, ils se trouvèrent au milieu d'une forêt où ils ne tardèrent pas à apercevoir une petite hôtellerie d'assez triste apparence. L'un des voyageurs, incrédule déclaré, dit à son compagnon qui était chrétien « L'aspect de cette maison ne me plaît pas, je crois qu'il serait imprudent de nous y arrêter. » « Entrons toujours, » répliqua l'autre, « nous verrons mieux ce qui en est. » Ils y entrèrent en effet, mais l'intérieur de la maison leur sembla non moins suspect que l'extérieur. Leur malaise allait croissant, quand tout à coup le maître du logis leur dit « Messieurs, j'ai l'habitude de lire la Bible et de prier chaque soir avec ma famille, me permettez-vous d'accomplir aujourd'hui cet acte de dévotion en votre présence ?»« Certainement, avec le plus grand plaisir, » s'écrièrent les voyageurs. Après le culte, chacun gagna sa chambre. « Je suis complètement rassuré, » dit tout bas l'incrédule à son compagnon. « Pourquoi cela ?» demanda celui-ci. « Parce que notre hôte a prié, ah !»« Il paraît, repartit le chrétien, qu'après tout vous faites quelque cas de la religion parce qu'un homme prie, vous pouvez dormir tranquille chez lui. » Eh bien d'où fut cette nuit-là le sommeil des deux voyageurs, car ils sentaient que dans une maison qui avait pour toit la prière et pour muraille la piété, aucun être humain ne pouvait songer à leur nuire. Vous le voyez, mes frères, il n'était pas d'argument plus propre à apaiser les craintes d'Anania que celui exprimé par ces simples mots « Voilà, il prie ». Mais il y a plus. Ces paroles étaient encore un argument tout puissant en faveur de la sincérité de Paul. La prière particulière est, sans contredit, la meilleure pierre de touche d'une sincère piété. Si Jésus avait dit à Anania « Voilà », Saul prêche, Anania aurait été en droit de répondre « Seigneur, il peut prêcher, tout en n'étant qu'un hypocrite. » Si Jésus avait dit « Voilà », il assiste à une assemblée de l'Église, Anania aurait pu répliquer « Seigneur, il peut s'y être glissé comme un loup en habit de brebis. » Mais au lieu de cela, que lui dit son maître ?« Voilà, Saul prie. » Dès lors, Anania est convaincu de la sincérité du nouveau converti. Et aujourd'hui comme alors, mes chers amis, la prière secrète, la prière individuelle, est la plus sûre garantie de la sincérité d'une âme. Pour ma part, lorsqu'un jeune chrétien vient me consulter au sujet de son état spirituel et qu'il m'entretient de ce qu'il sent et de ce qu'il fait, le plus souvent je coupe court à la conversation en lui disant « Agenouillez-vous et priez ». D'ordinaire il s'excuse, mais j'insiste. Enfin, il se prosterne, il gémit, il pleure, les paroles lui manquent, et ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'il parvient à balbutier d'une voix tremblante « Seigneur, aie pitié de moi, qui suis le plus grand des pécheurs ?» Les impressions religieuses de mon jeune frère m'inspirent déjà plus de confiance, mais si je pouvais l'accompagner chez lui, s'il m'était donné de le voir prosterné dans la solitude et répandant son âme devant Dieu, oh ! C'est alors que je me sentirais sûr qu'une bonne œuvre est commencée en lui, car celui-là est un vrai chrétien qui prie en particulier. Le fait seul que vous lisez chaque jour dans un livre de dévotion ne prouve pas le moins du monde que vous soyez un enfant de Dieu, mais, je le répète, si, dans le secret de votre cabinet, vous priez de tout votre cœur, on peut dire, sans crainte de se tromper, que votre piété est sincère. Un peu de sincère piété vaut mieux que des montagnes de formalisme. La piété du chez soi est la meilleure piété, la prière secrète est la meilleure prière ? De deux choses, l'une où la prière vous fera renoncer au péché, ou le péché vous fera renoncer à la prière. Mais l'on peut se tromper soi-même, tout en étant sincère, Paul ne se trompait pas, et la preuve, c'est que le Seigneur pouvait dire de lui « Voilà, il prie ». La prière du cœur, en effet, témoigne de la réalité de notre conversion aussi bien que de notre sincérité. S'il me fallait résumer toute la religion chrétienne en un seul mot, je n'en choisirais pas d'autre que celui-ci, la prière. Si l'on me demandait ce qui constitue, à mon avis, l'essence même de la vie chrétienne, je répondrais encore la prière. Il faut nécessairement que l'âme ait été convaincue de son péché avant d'avoir pu prier, il faut qu'elle ait eu quelque espérance de pardon avant d'avoir osé s'approcher de Dieu. Par le fait, dans la prière sont renfermées toutes les expériences, toutes les vertus du chrétien. Dites-moi seulement, mon cher auditeur, que vous êtes un homme de prière et je vous répondrai aussitôt dans ce cas, je n'ai aucun doute ni sur la réalité, ni sur la sincérité de votre religion. Une dernière remarque avant de quitter cette partie de notre sujet. Les paroles que nous méditons étaient encore un argument qui établissait de la manière la plus concluante l'élection de Paul. C'est ce que nous montrent clairement les paroles qui suivent celles de mon texte « Cet homme est un instrument que j'ai choisi » ou, selon d'autres versions, « un vaisseau d'élite ». Je connais beaucoup de personnes pour qui la doctrine de l'élection est un sujet de perpétuel tourment. Souvent même, il m'arrive de recevoir des lettres où l'on me prend à partie parce que je prêche cette doctrine. Voici la seule réponse que j'ai à faire à cet égard. L'élection est une vérité enseignée dans la Bible. Si elle vous déplaît, allez demander à mon maître pourquoi il l'y a mise. Quant à moi, je n'y puis rien. Je ne suis qu'un serviteur et je ne fais que vous rapporter ce que j'ai reçu d'en haut. Si j'étais au service d'un maître de la terre, je n'oserais altérer le message qu'il m'aurait confié. Il se trouve que je suis un ambassadeur du ciel, et malheur à moi si je ne vous transmettais pas fidèlement le message du Seigneur. Que si vous trouvez à redire à ce message, encore une fois, je n'y puis rien, adressez-vous à qui de droit. Mais, dira quelqu'un, comment puis-je savoir si j'ai été choisi de Dieu? Je crains de ne pas être au nombre des élus. Pour te répondre, mon cher auditeur, permets-moi de te poser à mon tour quelques questions. Pries-tu? Si l'on peut dire de toi « voilà, il prie », certainement on peut aussi ajouter « voilà un instrument choisi de Dieu ». As-tu la foi? Si tu l'as, tu es un élu. Tels sont les signes de l'élection. Si tu ne possèdes ni foi ni esprit de prière, tu n'as aucune raison de penser que tu fais partie du peuple particulier de Dieu. Mais gémis-tu de ne pas croire encore? Souhaites-tu d'aimer Christ? Y a-t-il dans ton séure, je ne dis pas un désir, mais la millième partie d'un désir de t'approcher de Jésus? Et ce désir, tout faible qu'il est, te porte-t-il à crier à Dieu avec ferveur et avec larmes? Si l'on est ainsi, ô mon frère, rassure-toi, ne crains pas de ne pas être un élu, car de même que la prière de Paul était une marque certaine de son élection, de même quiconque s'adresse à Dieu avec sincérité prouve par là qu'il a été élu avant la création du monde, afin qu'il fût saint et irrépréhensible devant Christ, par là. Charité, Éphésiens 1, 4. 3. Venons-en maintenant à l'application. Je regrette, mes chers amis, de ne pouvoir traiter convenablement un sujet aussi sérieux. Toutefois, je me console dans la pensée que mon glorieux maître demande à chacun selon ce qu'il a et non selon ce qu'il n'a pas. Je suis profondément pénétré du sentiment de mon impuissance. Je sais que je ne pourrais parler à vos consciences d'une manière aussi solennelle que je devrais le faire, quoi qu'il en soit. Mon droit est auprès de l'Éternel et mon œuvre est auprès de mon Dieu, et au dernier jour, il sera manifesté que si je n'ai pas mieux rempli les devoirs de mon ministère, j'ai failli par faiblesse ou par erreur, mais non par un manque de cordiale affection pour vos âmes. Et d'abord je m'adresserai à mes frères dans la foi. Ne voyez-vous pas, mes bien-aimés, leur dirais-je, qu'un esprit de véritable et fervente dévotion est le plus sûr indice que nous sommes deux fils de Dieu? Cela étant, ne s'ensuit-il pas tout naturellement que plus nous persévérons dans la prière, plus nous jouirons de l'assurance de notre salut? Peut-être quelques-uns d'eux vous ont-ils perdu dernièrement cette glorieuse assurance et la paix qui en découle? Ils ne savent plus s'ils sont, oui ou non, des enfants de Dieu, leurs âmes sont remplies de ténèbres. Mes frères, voulez-vous savoir où vous avez perdu le témoignage de votre adoption? Je vais vous le dire, c'est dans votre cabinet. Toutes les fois qu'il y a affaiblissement de vie spirituelle chez un chrétien, soyez sûr que le mal a commencé là et pas ailleurs. Je vous parle, hélas, d'après mon expérience. Souvent je me suis éloigné de Dieu, j'ai perdu pour un temps cette douce saveur de son amour que j'avais goûté autrefois. J'ai eu à m'écrier dans la tristesse de mon âme, le Seigneur m'a-t-il rejeté pour toujours et ne continuera-t-il plus à m'avoir pour agréable? Je suis monté dans la chair de vérité, mais j'ai prêché sans feu et sans énergie.